Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce théâtre Claude Lévi-Strauss au musée du Quai Branly pour cette avant-dernière séance de ce dernier cycle des grandes controverses imaginées par Catherine Clément et les équipes qui concourent à l'élaboration et la programmation de l'Université populaire du Quai Branly. Le sujet de ces rencontres, vous le savez, nous était fourni auparavant par un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle sera célébrée, cette déclaration, demain, ici même. Ce sera son 60e anniversaire. La séance de clôture réunira demain à 18h30 Stéphane Hessel et Souleymane Bachir-Diane, le premier dissertant sur les grands combats des droits de l'homme et le second sur l'avenir des droits de l'homme. Ça, c'est la séance de demain, 18h30. Et pour cette troisième et dernière saison, donc les controverses ont pris comme point de départ la déclaration des droits concernant les peuples autochtones, adoptée par l'ONU en septembre 2007. C'est aujourd'hui l'article 25 qui sert de point de départ à nos invités, Adam Bacano-Conaré et Henriette Rasmussen. L'article 25, donc, que je vous lis, « Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels, particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. » Alors je rappelle le fonctionnement de nos séances, qui va voir tout d'abord Adam Bacano-Conaré, puis Henriette Rasmussen commenter cet article de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Elles disposeront chacune d'une vingtaine de minutes pour le faire, et puis après s'être livrées à cet exercice, je m'immiscerai dans leur conversation pour préciser tel ou tel point de leur démonstration, souligner peut-être tel ou tel point de désaccord pour creuser la réflexion. Ça nous occupera encore une vingtaine de minutes, à l'issue desquelles la parole vous sera donnée, à vous, membres de cette communauté éphémère que nous formons en cette fin d'après-midi pour questionner directement nos intervenants, intervenantes que je présente rapidement pour dire qu'Adam Bacano-Conaré est historienne de formation, qu'elle a obtenu son doctorat en histoire après des études en Pologne, qu'elle a enseigné pendant 16 années à l'école normale de Bamako, et qu'elle y a pris part aux révoltes étudiantes qui ont amené la démocratie dans ce pays. En 1992, son mari, Alpha Omar Conaré, est élu à la présidence du Mali, fonction qu'il occupera pendant deux mandats, faisant la dame Bacano-Conaré la première dame du Mali pendant 10 ans, ce qui permettra à celle-ci de participer non seulement au développement du mouvement démocratique malien, une expérience d'ailleurs qu'elle retrace dans un livre, L'os de la parole, cosmologie du pouvoir, mais aussi de mener un combat aussi, je dirais, de féministe, à travers de nombreux livres et d'articles consacrés notamment à la situation de la femme au Mali, et puis rappeler qu'elle est aussi à l'initiative d'un musée de la femme à Bamako, et puis dire que Adam Bacano-Conaré a régulièrement été sollicité, comme aujourd'hui, pour prendre la parole lors de colloques et de conférences à travers le monde pour notamment défendre et exprimer les droits de l'homme dans les cultures africaines, et dire que elle a mené de nombreux combats qu'elle mène encore, notamment portant sur la lutte contre l'exclusion, l'aide aux déshérités, à travers la fondation Partage qu'elle a créée et qu'elle dirige. Henriette Rasmussen, quant à elle, a occupé de nombreuses et diverses fonctions politiques publiques dans son pays, le Groenland. Tout d'abord comme conseillère municipale de Nuuk, la capitale du Groenland, puis comme membre du Parlement pendant 12 années, mais aussi en participant au gouvernement de son pays, comme responsable des affaires sociales et du travail de 91 à 95, puis en tant que ministre de la Culture et du Culte de 2003 à 2005. Elle a été l'une des pionnières justement dans le combat pour les droits des femmes et les droits des peuples autochtones au niveau international, à la fois à la Conférence internationale des droits de l'homme à Vienne en 93, comme déléguée au Forum social de Copenhague en 95. Elle a également travaillé entre deux mandats ministériels comme conseillère technique principale au Bureau international du travail à Genève. Elle a œuvré là aussi pour le droit des tribus et des peuples autochtones. Elle a participé, bien sûr, à la création du forum permanent pour les questions autochtones aux Nations Unies à New York en 2002. Et puis, elle a rejoint en 97 la Commission pour la Terre, avec quelques camarades comme Mikhail Gorbatchev et les membres aussi du Earth Charter International Council jusqu'en 2010. Elle est la marraine à l'heure actuelle d'une exposition Voyage au pôle qui se tient à l'Océanopolis de Brest dans le cadre de l'année polaire internationale. Longue présentation, mais pour vous dire combien ces femmes d'exception à l'éthique, à la morale et à l'action exemplaire sont bien placées pour nous confier leurs commentaires sur le sujet proposé et combien leur vision sur ce sujet, ces sujets nous intéressent. Dans un premier temps, elles vont s'exprimer ici, à ce pupitre. Tout d'abord, Adam Bakonaré, et ensuite Henriette Rasmussen, qui le fera à cette tribune. Et on le remercie en français. La suite de notre conversation se fera pour elle en anglais. C'est pourquoi vous avez, je l'espère, pour les uns et les autres, pris des casques qui vous permettront d'entendre les traducteurs Evner et Paolo Fulchignoni, qui assureront en cabine la traduction des propos. Pardon pour cette longue introduction, mais qui était nécessaire pour parler à présent de l'article 25, que je relis une dernière fois. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes, côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. J'appelle tout d'abord Adam Bakonaré pour son premier commentaire sur la question.
Bonsoir, cher auditeur. Comme vous l'avez dit, je suis historienne, donc je vais plutôt injecter la dimension historique dans ce débat-là. Mais avant de l'aborder, je pense qu'il est essentiel. Oui. Excusez-moi. Donc je vais quand même partir d'un point qui me semble important, et en tout cas pour ce qui concerne les pays africains, c'est la colonisation, pour essayer de donner une définition à ce concept de peuple autochtone. Et que j'ai retourné dans tous les sens, j'ai essayé de le traduire dans nos langues nationales, mais ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. En tout cas, pour ce qui concerne la période coloniale, le mot « peuple autochtone » apparaît déjà. Donc la période coloniale en Afrique francophone, au Mali particulièrement, se situe grosso modo entre 1880 et 1960, date de l'indépendance du Mali. Donc je prends au hasard un texte d'un colonial, hein, parce qu'il y a toute une anthologie sur cette question, et colonial, un administrateur qui était au Mali, qui a écrit un ouvrage sur l'Empire de Gao, nous sommes en 1943, et lui il écrit qu'en Afrique il y a deux sortes de nègres, les pygmées et les grands nègres. Il oppose les grands noirs primitifs aux envahisseurs rouges et blancs, et les pygmées, plutôt brunâtres, dit-il, seraient les autochtones. En tout cas, la race la plus anciennement établie sur cette terre africaine. Les pygmées, donc les autochtones du pays, sont restés très primitifs. Ils tirent leur subsistance de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Les grands noirs, ceux qu'il appelle les grands noirs, les ont repoussés dans des contrées hostiles à l'agriculture, notamment dans les déserts et les forêts épaisses. Et ce sont eux les vrais maîtres de la terre, ceux qui semblent leur concéder le titre de premiers occupants. Et pour le Mali que je connais bien, j'évite le grand large, les pygmées sont appelés dans ce pays les Télèmes, notamment qu'ils sont un pays dogon. Aujourd'hui, effectivement, au Mali, on s'accorde à dire que les Télèmes ont été les premiers, ont été repoussés par les Dogons, ce qui confère maintenant à ces Dogons le titre de premier occupant, de premier peuple, dans la mesure où les Télèmes ont disparu. Ces Télèmes également vivaient de chasse, de cueillette, à l'époque où la forêt arrivait probablement au pied des falaises de Banyagara. Les Télèmes restent pour les Dogons eux-mêmes les propriétaires de la terre, mais c'est un peuple mythique qui n'existe plus. Les Dogons leur font des sacrifices pour se ménager leur clémence parce que les Télèmes ont été, semble-t-il, de grands magiciens et qui peuvent prendre la forme de génies ou qui peuvent se matérialiser en tourbillon de poussière ou se cacher dans les arbres. À cause de leur disparition, je l'ai dit, donc les Dogons aujourd'hui sont considérés comme peuple premier de cette région. Mais en plus, pour Béro Villard maintenant, je reviens à mon auteur, il y a d'autres grands groupes, ceux qu'il appelle les grands nègres, qui sont aussi primitifs, constitués par exemple par les bozos, mais à ceux-là qui vivent de pêche et de, qui sont également les maîtres de la navigation. Mais il y a d'autres peuples qu'on peut ranger dans cette catégorie de grands nègres, comme les chasseurs gourmandiers, égaux, les agriculteurs gabibi, ou encore les sorco-pêcheurs qui occupaient vraisemblablement la vallée du fleuve Niger de Gao jusque dans les régions du Bénin actuel. Au Mali, on les appelle Sorogo, et ils semblent avoir été les premiers occupants de cette région et ont été bousculés avec l'arrivée d'étrangers, en tout cas c'est ce qu'on dit dans la région à Gao, qui s'appelaient ceux qui sont venus du Yémen et qui ont jeté les bases d'un des royaumes les plus connus du Mali, à savoir le royaume de Gao, fondé à peu près au 7e siècle. Bien entendu, parmi ces grands nègres, il y a d'autres peuples qui sont cités, les Maasai, les Bororo, etc. Mais lorsque nous écoutons les principaux intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont été bousculés par les envahisseurs, on pense que partout, de façon générale, en Afrique, au départ, il y avait des êtres tout petits. Et on les appelle Wakulo chez les Bambara, Atakurma chez les Songoy et Andoubulu chez les Dogon. C'était des peuples qui étaient plutôt rouges, brunâtres, qui étaient de petite taille, qui avaient de grosses têtes. Maintenant, tel que, pour en revenir à la déclaration des Nations Unies et le droit des peuples autochtones, peut se comprendre en Afrique, parce que la situation de l'Afrique est un peu différente de celle de l'Amérique. Elle peut comporter les colonies de peuplement, c'est-à-dire toutes ces populations qui ont été bousculées par la colonisation, qui les a dépossédées de leurs terres, les empêchant ainsi de participer au développement conformément à leurs besoins et intérêts. Le débat concerne également les intérêts des États-nations constitués après les indépendances sur le principe d'une autochtonie supra, je dirais, et les peuples africains devenaient autochtones par rapport à l'ancienne puissance coloniale confondue avec l'envahisseur et l'usurpateur. Les États modernes se sont donc substitués à ces États coloniaux. Maintenant, si nous prenons la définition de l'Union africaine, la définition donnée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout Africain peut légitimement se considérer comme autochtone sur le continent. Et beaucoup de réserves ont été émises par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement africains qui disent oui à cette fameuse déclaration des peuples autochtones, mais à condition que ne soit pas remise en cause l'intangibilité des frontières issues du découpage colonial lors du Congrès de Berlin en 1885 et l'intégrité territoriale. Pour eux, le concept d'autodétermination, par exemple, dont parle ce texte, doit prendre en charge les éléments suivants. L'auto-identification d'abord, ensuite l'attachement spécial et l'utilisation des territoires par les peuples premiers de leur territoire traditionnel, alors que leurs terres anciennes ont une importance capitale pour leur survie collective, physique et culturelle en tant que peuple. Ensuite, phénomènes doivent également être pris en compte d'autres considérations, telles que le phénomène d'assujettissement, de marginalisation, de dépossession, d'exclusion, de discrimination, parce que ces peuples ont différentes cultures, différents modes de vie ou de production par rapport à l'hégémonie nationale ou au modèle dominant. Toujours est-il que le débat concerne les États-nations héritiers du pouvoir colonial qui, au nom des intérêts nationalistes et des idéaux de paix et de cohésion sociale, ont instauré des systèmes de développement faisant fi des relations coutumières particulières, notamment celles qui concernent les liens spirituels entre les peuples autochtones et la nature. Aujourd'hui, il y a souvent conflit d'intérêts, il faut le dire, entre ces États-nations et des groupes de leur population évoluant en marge des affaires de la cité et qui, pour une raison ou une autre, notamment des raisons d'enclavement, sont exclus des programmes de développement. Mais aujourd'hui, à quelques exceptions près, il reste une grande difficulté à définir ces peuples autochtones et il n'existe presque plus de ces peuples-là, en tout cas dans cette partie de l'Afrique que je connais. Les autochtones d'hier sont devenus majoritaires aujourd'hui. Par exemple, les Bamana, qui constituent aujourd'hui le peuple majoritaire du Mali, alors qu'hier, ils ne l'étaient pas. À telle enseigne que tous les peuples du Sud, toutes les populations du Sud du Mali sont appelées Bamana ou Bambara, ce qui a donné d'ailleurs, je crois, naissance orientée, en tout cas le titre d'un ouvrage à chacun son Bambara. Bambara pour les Songhaï du Mali, ça concerne les Bambara proprement dit, les Malinké, les Sarokolé, les Bobo, les Bozo et même les Dogon. Alors, je vais me situer au point qui m'intéresse, c'est-à-dire la période coloniale. Et je dirais que presque partout, le concept du peuple premier renvoie à la riche et complexe histoire de l'Afrique. Et que, je l'ai dit tout tantôt, ceux qui étaient des premiers hier sont devenus majoritaires aujourd'hui. Donc, cela a créé quelques difficultés d'appréhension même du sujet par les populations, donc par l'administration coloniale. Et cette même administration coloniale a eu tendance à donner, à plaquer quelques qualificatifs à ce peuple, au peuple autochtone. Donc, c'est vraiment un mot qui est fortement connoté. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je ne le crois pas. En tout cas, peuple autochtone tel que les Français, parce que c'est eux qui ont colonisé le Mali, par exemple, les ont qualifiés. Peuple autochtone, ça signifie peuple barbare, cannibale, sauvage, sorti pour les autochtones eux-mêmes, ils sont sortis du trou ou de nulle part. En tout cas, ils étaient quelque peu surhumains et bizarres. Et ce sont des mythes récurrents. Et Béraud Villard, que j'ai cité tout à l'heure, vraiment, je l'ai choisi sur le tas, dit en ce qui concerne cette humanité autochtone, que ce qui les caractérise, c'est le fétichisme, la sorcellerie, les sociétés secrètes, les tatouages, l'anthropophagie, les sacrifices humains. Et cela est assorti également d'un kit de qualité ou de défaut, gaieté, optimisme, sens artistique, désir de convaincre et de plaire, mais aussi à des vertus fortes, un certain sens social, le goût de l'entraide et surtout ces vertus guerrières et ce dévouement qu'ils ont su montrer ces peuples au cours de nombreuses campagnes coloniales et des deux guerres mondiales. À cela, il faut ajouter, dit-il, un élément inexprimable, quelque chose de naïf, de gai, d'illogique, d'énivré, une cruauté charmante, il cite, le goût du mensonge poétique, un humour désespéré, une inquiétante séduction, héritage terriblement corrupteur et dissolvant, qu'ils transmettent aux peuples qui ont l'imprudence de les approcher, d'entrer en contact avec eux, ces peuples. Est-ce qu'aujourd'hui les peuples autochtones sont connotés? Je suis curieuse, bien curieuse de le savoir. Deuxième point de mon intervention, je voudrais parler des devoirs. Chaque fois qu'on parle de droits, dans ce qui concerne les sociétés africaines, et singulièrement au Mali, chaque fois qu'on parle de droit, on évoque son pendant, c'est-à-dire les devoirs. La sagesse africaine Bamana fait précéder même les droits par les devoirs. Avant d'avoir des droits, au commencement, l'homme a d'abord été investi de devoirs par son créateur qui a différents noms selon les peuples. Presque toutes les croyances africaines reposent sur la notion d'un créateur qui, après une œuvre harassante et chaotique d'ordonnancement, a laissé à des moniteurs invisibles la responsabilité de gérer le monde. C'est à ces moniteurs que le Créateur enseigna son savoir et la parole, toujours associés. Le verbe a une importance capitale, c'est elle qui donne sa substance au savoir. Ce sont ces moniteurs invisibles qui ont initié les hommes. Ils étaient au départ, les hommes se reproduisaient d'après les croyances par père, par couple de jumeaux. Les premiers ancêtres qui seraient descendus sur terre étaient au nombre de 8. Et donc, ce sont ces moniteurs invisibles qui ont enseigné à ces premiers hommes, dont le premier également était un forgeron, les techniques d'agriculture, de forge, de tissage, etc. Donc, ce sont en réalité ces moniteurs invisibles qui sont les vrais acteurs. Pour rendre compte de cela, je dirais que c'est eux qui composent le gouvernement, qui composent l'exécutif. D'ailleurs, le créateur est comme une présidence d'honneur. Il est très haut. On pense qu'après qu'il a fini de créer le monde, il s'est réfugié. Il a dit au moniteur invisible, débrouillez-vous, occupez-vous des hommes, initiez-les, tissez toutes sortes de relations que vous voulez avec eux. Moi, je me repose. Donc, on le respecte dans sa retraite presque solitaire. Et ce qui fait qu'il y a une relation extraordinaire entre ces moniteurs et ces hommes. Alors, l'une des tâches à laquelle a été investi l'homme, c'est évidemment la défense de la nature. Donc, le créateur et les moniteurs invisibles ont investi l'homme, ont chargé l'homme de veiller au maintien de l'harmonie universelle. Et c'est très important. Donc, la protection de l'environnement est une charge imprescriptible de l'homme. Les peuples autochtones sont donc, je peux m'aventurer à le dire, sont des environnementalistes avant la lettre. Même les attitudes profanes, à mon avis, ont une connotation qui renvoie à la protection de l'environnement. Je me souviens, moi-même, quand j'étais petite, on me disait tout le temps, par exemple, il ne faut pas cracher dans des endroits précis de la terre, de risque de gêner, un génie, ou des choses comme ça. On ne peut pas cueillir même une feuille d'arbre de façon inopinée parce que ça peut susciter la colère de cet arbre, des esprits de l'arbre, parce que tous les éléments de la nature sont vivants. Donc il faut des spécialistes pour indiquer les techniques par lesquelles il faut passer pour couper une branche d'arbre, ou surtout faire une saignée sur un tronc d'arbre. Et beaucoup de... Donc, ça, ce sont vraiment des exemples premiers profanes que je peux moi-même prendre dans mon environnement immédiat. Maintenant, lorsque nous parlons de droit, et une fois que les territoires ont été occupés, d'après les croyances, on entre maintenant dans la sphère des apanages spécifiques. Les premiers fondateurs, les premiers occupants qui se confondent avec les fondateurs ont toujours le titre mythique, par exemple, de possesseur du sol, Dugukolotigi en langue bambara, et Dugukolo, le kolo, ça veut dire l'essence, c'est l'os au départ, mais ça, c'est un nom qui signifie beaucoup de choses, polysémique, qui signifie la force physique, morale et spirituelle. Donc, en même temps, le Dugukolotigi apparaît comme le support de la société, et il est l'hôte de tous les groupes claniques pour les avoir acceptés et installés, ce qui implique à son tour une responsabilité de protection et de bienfaisance. Ils sont donc les dépositaires des fétiches tutélaires et autres moyens de contact avec les génies de la montagne, de la brousse ou des eaux. Leur pouvoir est strictement d'ordre spirituel et ce sont ces Dugukolotigi qui intronisent d'ailleurs les chefs de village, c'est-à-dire ceux qui sont chargés du pouvoir temporel. Par exemple, dans le pays de Kita au Mali, les camarades sont les Dugukolotigi, ce sont les maîtres de la terre, ils sont reconnus pour ça et c'est eux qui font les sacrifices pour pouvoir donc assurer l'harmonie et la cohésion sociale. À Bamako, qui a été fondé par exemple par les Nyaré au milieu du XVIIe siècle, je sais que chaque année ils font des sacrifices. Il regarde les oracles pour voir ce qui est bien pour la communauté de Bamako, pour les Maliens, et en termes de sacrifice de taureaux, ça peut aller souvent jusqu'à 40-60 taureaux. Maintenant, si pour... je parle comme ça, est-ce que j'ai encore le temps? 5 bonnes minutes. Alors, je voudrais quand même parler rapidement du débat sur l'universel et ensuite terminer par pourquoi faire, pourquoi tous ces droits. Donc, le débat sur la civilisation et l'universel, je commencerai par dire que l'homme, chez nous, en tout cas, nous pensons que l'homme s'est toujours auto-congratulé pour rien. Bon, on le sait, Protagoras, fut possible inventeur de l'humanisme, disait que l'homme est la mesure de toutes choses. Pascal a dit que c'était un roseau pensant. Et on le sait, Descartes a dit que bon, l'homme aussi, il est maître et possesseur. Donc en Europe ici, dans cette civilisation de la raison, l'homme a été placé sur un piédestal pour croire qu'il peut tout se permettre et surtout qu'il peut plier la nature à ses exigences. Dompter la nature, c'est vraiment le maître mot. Et c'est avec cette vision que les impérialistes, les colonisateurs sont allés en Afrique pour dompter cette Afrique-là. Et Victor Hugo, qui était un adepte de la Société des Amis des Noirs, au cours d'une conférence, disait justement, en s'adressant aux Européens, « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la à qui ? À personne. » Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Donc c'est ce modèle messianique, ce sont ces certitudes sur la supériorité du modèle culturel, technique, politique occidental dont se blindèrent les coloniaux, et l'idéologie des Lumières, vous le savez, le progrès scientifique. Tout cela entrait dans le cadre d'une logique qui s'appelait la mission civilisatrice de la France. Il fallait exporter tout cela, et bien sûr, pour les adeptes de cette pensée, toutes ces histoires de fétichisme, de croyance à des djinns, à des diables, à des esprits invisibles, tout cela relevait de l'impuissance de l'homme africain face à la nature, et tout cela devait bien sûr être renvoyé au musée de l'impuissance et puis de l'obscurantisme, de la barbarie, de la sauvagerie. Pourtant, les débats sur l'universalisme ont bien agité la société, le milieu colonial africain en France. Et c'était certains coloniaux qui étaient des hommes de terrain, c'est-à-dire des gens qui étaient en contact avec les Noirs, ont beaucoup glosé là-dessus. Je prends au hasard, parce qu'il y a toute une anthologie, je le répète, sur la question, certains passages de la préface faite par Maurice Delafosse du livre de Charles Monteil, qui a écrit le premier ouvrage de synthèse sur les Bambara du Mali, Bambara du Ségou et du Karta, et qui a été publié en 1924. À l'époque, Delafosse considérait les Bamana comme un peuple qui n'avait pas encore subi l'influence de la colonisation et sur lequel l'islam non plus n'avait pas eu grande prise. Il écrit concernant, Delafosse nous rapporte que concernant la généralité des gens, des Français, des Européens, l'humanité se divise en deux catégories. Celle qui a l'heure de posséder la civilisation et celle qui n'a point eu cette chance. D'un côté de la barricade sont les civilisés, de l'autre sont les sauvages, les primitifs. Naturellement, c'est nous, c'est-à-dire les Européens, qui sommes du bon côté. Il n'y a qu'une civilisation qui est la nôtre. Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. Et de la force de rappeler et en souvenir les propos tenus avec une évidente conviction par un parlementaire lors d'une séance du Comité consultatif des affaires étrangères qui fonctionnait avant la guerre sous la présidence éclairée du sénateur Lucien Hubert. Donc ce parlementaire s'écriait « Je ne suis pas de ceux qui prétendent vouloir faire évoluer les indigènes de nos colonies dans le cadre de leur propre civilisation pour la simple raison qu'ils n'en ont pas de civilisation. » Alors, Delafosse lui-même part en guerre contre de telles certitudes et il définit la civilisation, et c'est vraiment un progrès notoire, tout simplement comme l'ensemble des institutions, des mœurs, des coutumes, d'un groupement humain vivant en société et constituant par conséquent ce que les Latins appellent une cité. Il y a donc une civilisation, il n'y a donc pas une civilisation, mais des civilisations, il y en a autant qu'il y a de sociétés humaines. Cependant, il ne faut pas se tromper. L'intérêt pour ces croyances portait plutôt sur la curiosité et l'esprit de pragmatisme pour mieux gouverner les peuples soumis, plutôt que sur une volonté quelconque d'enrichir la pensée occidentale. Aujourd'hui, il y a un débat sur l'universalisme, il y a un alignement progressif des modes vestimentaires, et Michel Souquet nous dit dans son ouvrage « L'intelligence de l'autre ». Mais dit pour qu'une véritable homogénéisation puisse apparaître, il faut une mutation généralisée des représentations et des imaginaires, ce qui est loin d'être le cas. Et la mondialisation n'efface pas d'un trait la foultitude de rapports particuliers, singuliers avec l'histoire, qu'entretient des peuples avec l'histoire, le temps, le travail, etc. Je suis tout à fait de son avis, surtout lorsqu'il dit que le nous humain peine à se structurer autour des valeurs unificatrices, que sont par exemple les valeurs de paix, de justice et d'harmonie sociale. Et l'universel, en réalité, est un idéal à atteindre selon moi. Et vous avez cité tout à l'heure le livre que j'ai écrit sur la cosmologie du pouvoir. Pour moi, à l'exemple de l'extensibilité ininterrompue du cosmos, et donc les valeurs également sont extensibles, sont indéfinies, ne sont pas éternelles. Je dirais donc qu'il n'y a pas de valeur humaine définitive universelle. Et malgré toutes ces déclarations tonitruantes des apôtres de l'ordre mondial, qui sont d'ailleurs les premiers, les plus prompts à briser cet ordre. Dans l'absolu, je dirais même qu'il n'y a pas eu de valeur, qu'il y a autant de valeurs qu'il y a d'individus, même au sein d'une même famille. Je ne suis pas sûr que tous les membres de la famille partagent les mêmes valeurs. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux des astrophysiciens, que l'homme n'est plus au centre de l'univers, qu'il a en partage avec tous les autres éléments du cosmos la responsabilité de l'univers, y compris ceux qui sont apparemment inanimés. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Les astrophysiciens l'ont clamé. Ma robe que je porte, ce pupitre, tout, apparemment, même les éléments les inanimés, les montagnes, et surtout même cette table-là, ce fauteuil, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et les Africains avaient compris ça, me semble-t-il. Et c'est pourquoi tout a droit au respect dans ces sociétés-là. N'importe quel objet, même la souche de bois qu'on rencontre sur son chemin, on doit le considérer, on doit le prendre, on doit la considérer, la prendre et la mettre de côté, la traiter avec respect, parce que nous participons tous, nous sommes tous investis de cette responsabilité par rapport à l'univers, par rapport à la nature. Alors je passe rapidement sur ces croyances-là, peut-être que le débat nous en dira. Dans le débat, je pourrais entrer plus en détail dans ces considérations-là. Mais je vais terminer par l'intérêt actuel qu'on porte à ce débat-là. Que le débat rebondisse maintenant est un fait important, car pour moi, il s'agit certainement d'un côté d'abord de recomposer, de sauver et de recomposer un patrimoine en voie de disparition. Donc, c'est une véritable opération de sauvetage, comme d'ailleurs cette entreprise menée par l'UNESCO par rapport à un événement historique, culturel, qui est célébré au Mali depuis le milieu du 15e siècle par les peuls qui se sont établis dans la région du delta intérieur du fleuve Niger, qui codifie les rites de transhumance et les itinéraires des pasteurs peuls. On appelle ça le Yaral et le Dégal. Yaral, ça, c'est donc la transhumance des troupeaux dans les zones exondées pendant les périodes crues, et le Dégal, qui est donc la descente des troupeaux dans le lit du fleuve Niger. Chaque année, et cette année, le 25 novembre, il y aura cette grande festivité. Mais en plus de l'élément festif, c'est vraiment un moment capital pour renouer avec tous les pactes, les interdits sociaux, pour appuyer, raviver les pactes intercommunautaires et entre de toutes ces, parce que cette partie-là est un véritable creuset. Il y a des Bamanans, des Peuls, des Bozo, des Somono, des Dogons, etc. Donc, cette cérémonie-là a été classée par l'UNESCO comme patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Le gouvernement du Mali, en 2005 également, a lancé un projet de 3 ans pour la sauvegarde et la réhabilitation de cette cérémonie, et c'est d'ailleurs financé par l'UNESCO. Je me dis aussi que ce débat peut nous amener à corriger les attitudes et les réflexes mondialistes par rapport à la gestion des eaux et des terres en ce qui nous concerne, et donc à fournir ou à rêver d'autres systèmes de gestion de ces deux éléments fondamentaux que constituent la terre et l'eau, fondés sur le respect du patrimoine collectif, du patrimoine commun. Est-ce qu'on peut bâtir de nouvelles politiques environnementales à partir de ces croyances traditionnelles et en termes de comportement collectif à réinventer? Donc il s'agira de sortir de la logique de possession, de domination, de maîtrise de la nature, de l'univers, pour entrer dans une logique de participation, comme c'est la logique de ces peuples premiers. Ça veut dire quoi? Que le dialogue développementaliste va alors être orienté vers le dialogue interculturel, brisant ainsi le sacro-saint esprit d'universalité scientifique et technologique. C'est en d'autres termes aussi le développement à la base. Quelles sont les attitudes mondialistes? On les connaît, c'est le gaspillage, c'est le non-respect de l'environnement, c'est le total, on nous impose tout. Moi, je vais vous dire, chaque fois que j'ai envie de prendre un bain. Je pense aujourd'hui, mais mon Dieu, je suis en train de gaspiller de l'eau. Jésus toujours a créé une grande, à remplir ma baignoire pour prendre ce qu'on appelle maintenant le bain relaxant, grand bain, comment dirais-je, me rafraîchir, etc. Parce que dans notre culture, effectivement, gaspiller de l'eau, c'est inimaginable. Donc, ce sont des réflexes qu'on a comme ça et qui nous limitent. Et qu'est-ce que les environnementalistes disent aujourd'hui? Que la planète manque d'eau. Et qui est responsable de ce manque d'eau de la planète? Bon, c'est le consumérisme qui s'étend à tous les domaines. Donc, ça passe par la roue, les technologies, l'école institutionnalisée, la médecine, l'école, l'économie monétaire, l'administration bureaucratique. Ça passe par tout ça ou alors on dit que ça végète dans la barbarie, l'obscurantisme, le sous-développement, etc. Mais il y a un besoin de ressourcement dans les valeurs spirituelles de l'Afrique. Donc, reconnaître les valeurs et les logiques propres des paysans, des pratiques des paysans, c'est valoriser en quelque sorte l'échange d'expérience. L'échange d'expérience devient, à mon avis, échange interculturel. J'arrête là la parole, comme on le dit, faute de temps. Et s'il y a des questions beaucoup plus, plus fournies à poser, je reviendrai bien sûr sur ces différents aspects-là. Je vous remercie.
Alors, il y aura des questions à n'en pas douter dans un instant, les miennes et puis celles du public, mais j'invite Henriette Rasmussen à prendre la parole, à se diriger vers le pupitre pour nous livrer ses impressions et ses commentaires avant qu'on puisse effectivement en discuter tous ensemble.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le musée du Quai Branly pour son invitation et je tiens à saluer Madame Adame Conare et lui dire que je suis enchantée d'intervenir avec elle. J'ai hâte d'en savoir plus sur son pays, le Mali. Pour nous, les Inuits, la terre se nomme Nuna et l'eau Imerk. Pour nous, la terre Nuna est une immense région qu'il est possible d'observer aussi loin que notre vue en est capable. Ce n'est pas un simple petit bout de terre, c'est vraiment une immense région faite de montagnes, de vallées, de collines, de rivières, de fleuves et de deltas, entourée par la mer, le ciel et l'air et habitée par sa faune et de flore. C'est ainsi que nous percevons la terre, Nuna, le territoire des Inuits. Depuis très longtemps, des milliards de poèmes ont été dits et chantés pour exprimer notre amour pour notre pays. Cet amour peut-il être exprimé de façon plus poétique que dans ce poème spontané d'un auteur groenlandais anonyme? Nous avons essayé de le traduire en français. Il dit « Un jour viendra où je m'allongerai pour quitter ce monde. Mais ce qui s'offre à mes yeux aujourd'hui est toujours qui m'envoûte. Un autre le verra, tous mes 10 ans le verront. D'autres seront envoûtés à leur tour. C'est pour cela que je me respire, c'est pour cela que je me souffle. C'est tout cela qui m'envoûte et me touche au plus profond de moi. Donc, qui sont les Inuits? Qu'est-ce que le Groenland? Que signifie une plus grande autonomie gouvernementale pour le Groenland? Les Inuits de Groenland sont environ 60 000. Le Groenland, la plus grande île de la planète, c'est 2,1 millions de kilomètres carrés, une île située dans l'Arctique, éloignée isolée, mais aussi fascinante. C'est notre terre d'accueil depuis de plus de 4000 ans. Historiquement et géographiquement, nous appartenons à la culture des Inuits d'Amérique du Nord. Mais nous nous sommes également très influencés par plus de 250 ans de contact et de colonisation des pays européens. Le Groenland s'est éloigné de la politique d'assimilation de Danemark en 1979 avec la mise en place du gouvernement local groenlandais qui a accordé aux Inuits la responsabilité politique et juridictionnelle dans de nombreux domaines d'activité. Depuis lors, nous avons eu un parlement et notre propre gouvernement et la pleine responsabilité dans le domaine des affaires sociales, culturelles, éducatives, économiques et fiscales et les politiques budgétaires. Seule la politique étrangère, la monnaie et le tribunaux restent sous juridiction danoise. La question sur les ressources minérales, droit foncier, a été résolue au cours de cette période par la création d'un conseil mixte composé de Danois et Groenlandais membres du Parlement. Cette année même, en 2008, le mois dernier, un nouveau pas en avant vers notre autodétermination a été négocié et soumis à un référendum qui a été positif. Le oui est passé avec 76% des votes. Ce nouveau programme sera mis en place au cours de l'été 2009. Lors d'un voyage en Europe avec mon fils jeune, nous avons rejoint Budapest à partir de Vienne en bateau sur le Danube, puis nous avons continué votre voyage en train vers Venise, en Italie. Comme nous n'avions pas beaucoup de temps pour découvrir chaque endroit, nous avions décidé de visiter les différents musées historiques de chaque ville. Nous avons bien sûr découvert de magnifiques salles ampliées, de magnifiques œuvres. Mais une chose a particulièrement retenu notre attention. Il s'agit d'une immense toile présentant une bataille historique. Cette toile nous a fait prendre conscience que les guerres de territoire pouvaient être importantes pour les Européens, car la terre est très importante et nécessaire pour la richesse d'un pays. Pour nous, cependant, nous n'avons pas cette perception de la terre. La terre ne peut pas appartenir à personne, même si les Inuits ont aujourd'hui obtenu des droits collectifs territoriaux. Nous considérons toujours que nous pouvons avoir l'usage de la terre, mais que nous ne pouvons pas la posséder. Par ailleurs, nous ne décidérons pas de notre territoire comme un désert. Notre territoire est habité par les humains, par les esprits, mais aussi par les animaux qui trouvent leur nourriture dans une flore extrêmement riche. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est un fait réel qui a un impact énorme sur notre environnement. Nos villages ancestraux ont toujours été construits sur le littoral. Or, l'érosion du sol et l'érosion marine font disparaître ces villages et nos vestiges archéologiques disparaissent avec eux. Le climat froid et rigoureux de nos régions effraie souvent les Européens ainsi que les Africains. Mais nous le percevons le froid tout à fait différemment. Pour nous, grâce à froid, et particulièrement grâce à la banquise, notre territoire est plus vaste. D'une part, la banquise nous permet de nous déplacer entre nous à chien sur de grandes distances. D'autre part, elle nous offre un immense territoire de chasse. En effet, la banquise présente un écosystème très riche. Un jour, lors de mon premier voyage en Asie, je suis arrivée aux Philippines et j'y ai retrouvé que personne j'avais déjà rencontré au Groenland, et notamment Jaime, un fermier autochtone de la région Provence de la montagne de Sakata. Les gens autour de lui me disaient en riant, « Sais-tu, Henriette, que lorsque Jaime est revenu de Groenland, il nous a raconté qu'il y avait vu de montagnes blanches naviguer sur l'eau. » Je leur ai confirmé qu'il avait raison. Ces montagnes existent. Elles s'appelaient « des icebergs »,« icebergs ». Elles flottent réellement sur la mer. Pour ces gens-là de la montagne qui n'avaient jamais vu la mer et qui n'avaient jamais eu l'occasion de monter en bateau, contrairement à nous, c'est difficile à comprendre. Pour Jaime, cela avait été une expérience inoubliable, mais aussi très difficile à vivre de naviguer dans une petite embarcation sur une mer emplie d'icebergs. Et lui avait été aussi difficile à son retour d'expliquer chez lui ce qu'il avait pu vivre. Pour nous, les plaques de glace qui flottent à la surface de la mer sont extrêmement importantes, car elle signifie un approvisionnement possible en eau douce pour boire, faire la cuisine ou préparer le thé. Peut-être penserez-vous, mais cela doit être salé. En fait, nous la récoltons, nous laissons s'écouler le sel quelque temps, puis nous mettons ce qu'il reste dans son récipient. Après cette étape, elle est fraîche et délicieuse. C'est une eau pure qui provient de la calotte glaciaire de Groenland et qui a plusieurs milliards d'années. Ces plaques de glace se détachent des glacières, puis s'en vont sur la mer sous forme d'icebergs qui vont eux-mêmes permettre aux Inuits d'obtenir de l'eau fraîche et pure pour leur consommation, avant de fondre et de se mélanger à la mer salée. L'Anglandise, la calotte glaciaire de Groenland, est une vaste dôme de glace, zone d'accumulation parfois immobile et glacier réservoir, épais par endroits de plus de 3000 mètres et d'une surface de 1 million 726 000 km², soit 79% de la surface de Groenland. De nos jours, à cause du réchauffement climatique, la banquise devient de plus en plus dangereuse. Elle est beaucoup moins épaisse, voire inexistante, et elles font plus rapidement, ce qui présente un grand danger pour nous et les chasseurs en particulier. De plus, les glaciers qui nous offrent l'eau de source fondent très rapidement et risquent de priver les populations d'eau, douce. Alors, que peut-on faire ? Déménager et créer de nouvelles infrastructures chez nous, ce serait très difficile et cela coûterait aussi très, très coûteux. Tous les peuples autochtones ont leur propre histoire, la culturelle et patrimoniale. La nôtre, celle des Inuits de Groenland, nous est propre. Toutefois, à l'époque contemporaine, nous n'avons réussi à collaborer avec d'autres peuples autochtones à travers le monde. Ces collaborations ont été très enrichissantes pour notre auto-compréhension et notre estime de soi. Il ne faut pas oublier que la situation pour nous, pour de nombreux peuples autochtones, est très difficile. Aujourd'hui, grâce à l'adoption de la Déclaration pour les droits des peuples autochtones à l'ONU, une porte est ouverte pour améliorer la situation. Les États dans lesquels nous vivons ont à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les préjugés et éliminer la discrimination. Ils doivent également promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations entre les peuples autochtones et tous les autres peuples. L'ONU possède sa propre agence pour tout ce qui touche à la culture et à l'éducation. L'UNESCO, ses déclarations et ses différents programmes et autres outils sont disponibles. La reconnaissance et la préservation de la culture des peuples autochtones, de savoir traditionnel et de la recherche spirituelle contribue à la protection de l'environnement et au bien-être de l'humanité. Pour les États et pour nous tous, c'est un défi pour vers une vie meilleure. Je voudrais souligner enfin que notre culture de la chasse, avec ses propres règles d'exploitation de la nature et de ses ressources, devrait être mieux documentée. Car cette culture liée aux règles de conduite face à la chasse permet de garder nos traditions bien vivantes et touche la question de la juste répartition des ressources de la nature. Demain, le 10 décembre, nous fêterons justement le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et femme. Ces droits de l'homme et notamment les droits de l'enfant portent sur les droits de la personne. L'adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones en septembre 2007 fut un pas en avant parce qu'elle parle du droit collectif des peuples et non plus des droits individuels. N'est-ce pas exactement ce que l'humanité doit tirer comme leçon? Il ne faut pas seulement traiter et renforcer nos droits en tant qu'individus. Nous avons atteint une époque d'interdépendance dans l'histoire de l'humanité. Que nous soyons Inuits, Européens ou Africains, nous devons faire face à de nouveaux points de vue éthiques d'interdépendance. Nous devons nous concentrer sur la protection de l'environnement, les droits de l'homme, un développement humain équitable, la paix et la non-violence. Notre terre est unique et se trouve actuellement en danger. Nous devons aujourd'hui trouver des solutions ensemble et agir collectivement à sa faveur. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci infiniment, Henriette Rasmussen, pour cette intervention. Vous continuerez la discussion en anglais, cette fois avec nous. Nous allons disserter ensemble, mais j'avais envie quand même de commencer par vous poser une question, si vous le voulez bien, parce que tout à l'heure, on s'est interrogé et on s'interroge depuis que nous faisons ce nouveau cycle de conférences sur la notion même de peuple autochtone. Et je me demandais en préambule comment est-ce que vous entendez ces termes-là, peuple autochtone, ce que cela signifie pour vous Alors là, vous en tant qu'Inuit. Vous avez got a mic over there.
It's open.
It's on. We can take ourselves as an example in Greenland. We are 80% in our country in Greenland. It is very extraordinary compared to many other indigenous peoples around the world because we are the majority. We have a life intact, you can say. But after the Second World War, when Denmark had to decolonize its colonies, they claimed in the United Nations in New York that in Greenland the people had already mixed so much with the Europeans that you could not talk about indigenous peoples any longer. And that really has really offended us, because you can see I'm not European. And if you go to Greenland, it is very clear we are Inuit, we are Eskimo. So, and I think that it is the concept which is used by the International Labour Organization, for example, that people who claim their own perception of being an indigenous people, that should be valid or be validated. And ILO also claims that its conventions are to be used by these people. Now, I have had the pleasure to work with ILO in Geneva for 4 years, and I have been dealing very much with African peoples. I have been working with with base in Morocco. We have made several workshops about the rights of indigenous peoples. And this time it was the Imazighen, les Berbères et les Touaregs. It was so interesting for me because they came from all these countries and also from Mali, so I have some friends in Mali. And I also worked in the Southern African region with the San people. I worked with the Pygmies in Cameroon and Central African Republic. And they were clearly, you know, they defined themselves, or they could be defined as indigenous peoples in Africa. The Maasai, the pastoralists in Eastern Africa also. Very interesting.
Alors, peut-être aussi, alors, vous renvoyez une autre question à Madame Bakonare sur un des mots de conclusion d'Henriette Rasmussen, qui était l'idée et le concept d'interdépendance. Je voulais savoir comment est-ce que vous, alors, de votre place, parce que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des représentants d'endroits si différents du monde, comment est-ce que vous entendez cet appel à la réalité d'aujourd'hui, l'interdépendance entre les peuples, entre les nations, entre les continents. Alors, vous avez un micro sans doute qui est à côté de vous, voilà, qui est ouvert.
Oui, bon, elle a parlé tout à l'heure de rencontres avec des peuples autochtones d'autres pays, en évoquant notamment la rencontre avec les peuples berbères et les Touaregs, bon, qui, on le sait, sont en grande majorité au Mali et également au Niger. Bon, moi, je pense que c'est quelque chose de bien, de bien que cette rencontre entre les continents, parce que d'abord, ça permet de tisser des liens de solidarité, et des liens aussi de réflexion par rapport à des situations différentes, mais disséminées à travers différents continents. Et ce qui, maintenant, il faut trouver ce qui unit véritablement ces peuples dits autochtones, parce que j'imagine que les situations sont complètement différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Si je prends le cas, par exemple, des Touaregs auxquels elle a fait référence tout à l'heure, C'est vrai que c'est une population qui occupe les régions septentrionales du Mali, mais qui ont cette spécificité comme quoi c'est une région très très enclavée. Géographiquement, le nord, qu'on appelait d'ailleurs le Grand Nord du Mali, est un pays difficile d'accès. C'est une région désertique et qui vit pratiquement qui ne vit que de nomadisme. Donc, il y a une activité pastorale, mais qui entretient des relations avec les sédentaires installés au bord du fleuve Niger. Mais c'est vrai que cet enclavement, situation géographique a fait que malheureusement c'est une population qui a quelque peu évolué en dehors des grandes, j'allais dire, des politiques de développement. Pas de façon délibérée, me semble-t-il, mais parce que tout simplement ils se trouvent dans une position difficile. Mais à partir du moment où on bâtit une nation, où il y a quand même la mise en place de politiques de développement national, évidemment si une population se trouve un temps soit peu à marge de ces politiques de développement, même si ce n'est pas conscient, même si ce n'est pas délibéré, évidemment, il se pose tout d'un coup un problème de justice sociale, quelque chose qu'il faut réparer. Moi, je pense que dans ce cas précis, peut-être que les formules de décentralisation, de réinvention d'autres systèmes de gestion des États-nations peut certainement venir, peut pallier à cette difficulté-là. Je parle des Touaregs parce qu'ils ont occupé le devant de la scène, parce qu'il y a eu une rébellion dans cette partie du Mali et parce qu'on est encore, l'État central est encore en position de négociation avec ces peuples qui considèrent que, ma foi, ils sont un peu en marge de ces problèmes-là. Donc, cette solidarité intercontinentale peut ouvrir des voies, effectivement, de réflexion.
Alors, par rapport à cette déclaration également, peut-être une autre question alors que je vous poserai à toutes deux, peut-être une précision sur votre pensée. Vous disiez tout à l'heure, Madame Bakounoaré, que les premiers habitants étaient les maîtres de la terre, pas les propriétaires, mais qu'ils avaient donc des responsabilités, des devoirs. Et tout à l'heure, vous disiez, Henriette Rasmussen, que les Inuits se considèrent comme des usagers de la terre qu'il peuple, mais en tout cas certainement pas des propriétaires. Et on a bien vu dans votre rappel historique important que les Européens, eux, se considéraient comme les propriétaires du monde, et très largement encore aujourd'hui, quand ils sont allés coloniser d'autres pays, ils le faisaient en conquérant et en maître des territoires. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le troisième millénaire, le travail le plus important, il ne serait pas à faire en Europe pour que les mentalités des anciens colonisateurs changent? Et comment est-ce que vous regardez l'évolution de la pensée des Européens sur leur rapport à la Terre? Alors je vous demande peut-être d'abord, Henriette Rasmussen, est-ce que les Européens, les Occidentaux d'une façon plus générale, ont suffisamment évolué dans leur rapport à la Terre aujourd'hui?
In my opinion, the Europeans have used a lot of the riches of the world, and they're still claiming it. But I think that times, you know, that if we should regard the earth as one, and the humanity, the place where we have reached, the big consumers must reconsider what to do. Because the earth cannot support this kind of consumption. It is like in North America, some places in Asia, and definitely Europe. And I think there that the knowledge, the traditional knowledges, will become very necessary. Because we build big cities, and people are still urbanizing. We are still moving to the cities, but maybe it is not so wise, because the climate is changing so much, because we are consuming all too much. It is those who must reconsider their lives, I think.
Alors, je vais renvoyer la question à Madame Bakounoaré, mais si vous voulez déjà commencer à poser des questions, faites signe pour que les micros, levez les mains pour que les micros arrivent jusqu'à vous. Vous parliez tout à l'heure, Madame Bakonare, de ce moment qui est presque une mission de sauvetage finalement. Alors on se demande quand, je crois que vous avez employé ce terme, hein, d'entreprise de sauvetage, j'ai noté tout à l'heure. On se demande s'il n'est pas trop tard aussi pour sauver, ce qu'il reste à sauver, si cette planète est encore sauvable justement.
Et je voudrais revenir un peu en arrière pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les attitudes des Européens, donc par rapport aux croyances, à la pensée des peuples autochtones. Moi, je pense qu'il y a vraiment d'abord à déconstruire des concepts. Et à être moins arrogant dans les certitudes, c'est-à-dire dominer la nature, croire que la civilisation de la technologie peut tout résoudre. Je crois qu'il faut être très très modeste et il me semble qu'il y a une réelle volonté, un réel besoin de déconstruire ce mythe de la grandeur de l'homme, je le répète encore, dans lequel nous sommes situés depuis maintenant des siècles. L'anthropocentrisme, il faut absolument qu'on en finisse avec ça et qu'on soit beaucoup plus modeste par rapport à la maîtrise de la nature. Considérer que nous sommes tous partie prenante du devenir de cette planète Terre-là, qui est une planète... relativement jeune d'ailleurs dans l'ordre de création selon les croyances africaines, mais qui est unique, et nous sommes investis de la responsabilité de la sauvegarder. Mais en même temps aussi, moi j'ai le sentiment, c'est ma conviction, qu'on a besoin, toujours sur la lancée de mes croyances, qu'on a besoin d'injecter un peu de sacré dans nos attitudes vis-à-vis du développement de façon générale. Croire que l'homme peut tout faire, je pense que ce n'est pas exact et qu'il y a peut-être besoin d'injecter cette dose de spiritualité, de croyance à des ordres que nous partageons avec d'autres forces, peu importe qu'elles soient d'ailleurs visibles ou invisibles. Donc, vous posez la question de savoir si on peut encore sauver ce patrimoine immatériel-là. C'est vrai, c'est une question fondamentale, même si je prends mon propre cas en tant qu'historienne. Longtemps, on a pensé on a travaillé avec des traditionnistes, c'est-à-dire tous ces griots et tous ces gens qui racontent l'histoire par la voix orale, parce que le verbe est très important chez nous. On pense que c'est le verbe qui fait qu'une parole a de la substance. Cet auteur que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, quand il a vu un forgeron en train d'officier, le forgeron parlait beaucoup, évidemment, pour ce colonial, il était dans des gestes ridicules et des propos, dans un verbiage presque diaréique qu'il ne comprenait pas du tout. Donc c'est très important, nous pensons que ces derniers traditionnistes qui racontent l'histoire sont malheureusement en train de disparaître sous le coup de la mondialisation, tous ces médias effectivement qui nous gouvernent, qui font que nos enfants ont même de la peine à nous écouter lorsque nous avons envie de leur raconter les histoires de contes de brousse. Ils n'écoutent pas, ça les ennuie. Comment faire, comment recréer cette pédagogie pour obliger tous ces enfants-là à nous écouter? C'est vraiment un défi qui est lancé aux Africains, qui est lancé au gouvernement africain. Nous avons besoin de réinventer notre relation avec la nature parce qu'elle est trop menacée.
Alors, je ne sais pas si déjà des questions, mais au commencement était le verbe réinjecter du sacré. Henriette Rasmussen, comment est-ce que vous entendez cette proposition qui est faite ici? Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut réinjecter du sacré dans cette question?
I think it's quite true. It is very true. I really agree that we can be more and have less as human beings. We can survive with less, but be more and safeguard the good traditions. But I think also very important that our children are educated to be with new ethics, that they are responsible for, just like Madame said, that they are all responsible for the environment, that they cannot overutilize their any resources, I think that education for the children is a very important one.
Alors, monsieur avait une question ici.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais livrer à nos conférencières et à l'auditoire mon interrogation sur la définition des aires qu'on a caractérisées, ces aires géographiques, hein, les peuples autochtones et les autres. Il me semble que c'est très relatif. Si on s'en tient à la définition que les Nations Unies ont reprise et que, par exemple, l'organisation Survival défend, il y aurait environ 250 millions de peuples qui correspondent à cette définition de peuple autochtone. Bon, ça me paraît très restrictif parce que c'est de la géopolitique. Si on regarde d'un peu plus près ou dans cette mouvance de la pensée et des cultures, ben, on peut s'apercevoir que les peuples autochtones sont encore très vivants partout. Hein, et je pense tout à l'heure, Adam nous parlait d'un rituel annuel du passage du fleuve pour les peuples pasteur au Mali, hein, je pense que c'est le passage de Diafarabé dont vous parliez, qui a dû avoir lieu le 25 novembre. Nous avons ici, dans l'Aubrac, en France, le rituel analogue lors de la montée des animaux dans l'estive, avec les animaux qui sont colorés, habillés, les mêmes fêtes, voyez. Et pour reprendre, disons, la problématique que le grand maître de ce lieu, Claude Lévi-Strauss, a bien honoré, défendu, illustré durant toute sa vie, finalement, ces pensées dites sauvages que l'on retrouve à travers ces structures que ce sont les mythologies ou les structures de la pensée traversent toutes les cultures. Et même si l'on peut pourfendre, stigmatiser, comme vous l'avez bien fait, Adam, cette pensée dominatrice, colonisatrice, impérialiste, hein, assimilationniste plutôt, bon, on pourrait aussi peut-être dénoncer ces pensées anti-environnementalistes que sont les pensées qui tiennent au monothéisme, hein, qui, elles, ces pensées monothéistes font des ravages au niveau de la relation entre l'homme et son environnement. Mais je trouve qu'on peut être assez optimiste quand on pense à ces travaux des anthropologues et se méfier d'une vision peut-être trop simpliste, trop réductrice, hein, quant à cette vision peuple autochtone et peuple non autochtone.
Merci pour votre contribution. Je ne sais pas si vous avez l'une ou l'autre envie de réagir. Je pense que c'était davantage une contribution ici qu'une question, mais c'est vrai. Enfin, je ne sais pas, Adam, si vous vouliez.
Juste un ajout, je suis tout à fait d'accord. Oui. Sauf que les religions monothéistes, bon, comme ça, de loin, on pense qu'elles ont fait des ravages sur cette pensée. Notamment, bien sûr, il s'agit de l'islam et du christianisme. Mais c'est tout à fait curieux. Mais même les plus grands zélateurs de l'islam dans un pays comme le Mali, par exemple, aménagent quand même un temps pour faire un clin d'œil à ces croyances traditionnelles-là, sous forme de sacrifices, parce que quand ils ont des moments, je ne sais pas, importants dans leur vie, on va toujours consulter le marabout, le charlatan d'à côté, il faut tuer un mouton, ouais, etc. Machin. Donc, il y a toujours aménagé à côté de l'islam ou du christianisme une place pour ces croyances-là. Mais certainement que nous sommes à l'avant-dernière génération de gens qui croient à ça. Je ne sais pas, dans 20, 30 ans, qu'est-ce que nos enfants vont faire. Est-ce que déjà ils ne nous prennent pas pour des gens appartenant à un autre âge? Je n'en sais rien. Mais nous sommes sérieusement menacés par la mondialisation.
Madame en haut.
Oui, bonsoir. Je suis très heureuse que Madame Bakonaré réagisse sur ce point, parce que j'étais moi-même extrêmement surprise d'entendre cette approche concernant le monothéisme. Fréquentant l'Afrique régulièrement, et notamment le Mali, mais aussi le Burkina Faso, étant en contact de gens qui pratiquent l'animisme, eux-mêmes disent être monothéistes. Et là, la façon dont ils le racontent, c'est Dieu a créé toute chose, y compris le non-animé. Donc, ils se doivent de respecter toute chose. Et ça, c'est bien une conception monothéiste, parce que toute chose est créature de Dieu. Vous le dites en termes de poussière d'étoiles, ce qui est très poétique et précis aussi, c'est pas seulement poétique. Donc voilà, je crois que c'est important de garder l'esprit assez ouvert sur ces questions-là, et de ne pas prendre des raccourcis par rapport aux croyances.
Alors, c'est ce que disait aussi à sa façon, pardon, Henriette Rasmussen, je voulais réagir.
Yeah, I would like to have a little comment on monsieur. You know, I think that, of course, indigenous peoples are there. They have their own history. And what we should fight and what we are, you know, the Inuit are on the line with the people who are exploited. Like, for example, the Pygmies, if they are working in the timber industry in the countries they are, or be involved in the wars and abused because they know their forests, or the timber industry is violating them because and don't give them money for their work in the timber industry. That's abuse, and that is not right in our opinion. And the same is that European Union also, you know, deny our products from the Inuit. They are saying we do not want to buy any skin from Greenland. It is not environmentally right and all that. And here the Europeans do not know that. We know our environment. There are so many seals. So, you know, we have always been a part of the ecosystem. The human being has been a part of the ecosystem as a hunter. Like I could see in New York, because there are no hunters and people do not want to kill animals, there are all too many deer. So, and they have nothing more to eat. They have to go to people's small gardens and eat their flowers. So, you know, we have to be reasonable and we have to recognize and respect that people can, you know, they have their own visions also and their own lives they have to support. And sometimes they have a big territory, but most of the times they have been evicted from their areas to end up to have more arid lands, for example, because they are not recognized.
Ce que vous dites là, Henriette Rasmussen, c'est que l'universalisme et les Lumières veulent continuer d'éclairer les zones obscures et que c'est à l'Union européenne de dire à vous comment vous devez vivre. C'est quand même, bon, voilà, on n'a pas beaucoup avancé quand même. Hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a aussi beaucoup de questions. Jeune homme.
Bonsoir. Je voulais vous poser une question d'ordre plutôt juridique sur le droit international, puisque au cours de ce cycle que nous clôturons aujourd'hui sur cette déclaration des droits des peuples autochtones, plusieurs intervenants ont émis des doutes sur la possibilité, les usages que fournirait cette déclaration. Et je voulais avoir votre point de vue en dehors de l'aspect déclaratif et proclamatif de ces droits, de ces manières de faire ou ces pensées différentes qui sont inscrites dans la déclaration. Je voulais savoir si juridiquement, dans les combats ou dans les différents rapports de force qui sont à l'œuvre au niveau mondial, vous pensez qu'elle avait un poids, une force, et de quelle manière?
Alors, qui commence? Adam, peut-être.
Bon, et juridiquement, moi, je crois que j'ai effleuré tantôt la question concernant l'application de ces droits-là. Pour vous parler franchement, je crois que les États ont beaucoup de réticences par rapport à cette déclaration-là, prise dans sa globalité, et je ne parle pas de ce fameux article 25 qui est relativement digérable, mais lorsqu'on parle d'autonomie des peuples autochtones, droit des peuples autochtones à choisir leur système, comment dirais-je, de gouvernement, etc., vraiment ça fait peur. On pense que ce sont des velléités de sécession qui sont en gestation à travers cette fameuse déclaration des Nations Unies concernant les peuples autochtones. Bon, mais quelque part aussi, il y a quand même tout un lobby, il faut le dire aussi, derrière tous ces mouvements, et qui ont été d'ailleurs, donc ces peuples autochtones ont été quelque peu, comment dirais-je, reconnus et sont à travers le monde, il y a beaucoup de lobbies derrière eux. Je pense que donc ces pressions sur les différents gouvernements sous lesquels donc qui ont la tutelle, qui assurent la tutelle de ces différents peuples autochtones, avec ces pressions, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'on arrive à négocier et à rétrocéder du terrain par rapport surtout aux questions qui touche au développement de ces régions-là. Sinon, je vous assure que ça fait peur, hein, tout ce qu'on a envie de faire pour les peuples autochtones. Mais ça bouge grâce à la pression, grâce à l'existence de ce texte-là déjà.
Oui, c'est une façon de bouger, mais on l'a dit, et notamment avec Pierre Jox et Michel Rocard récemment, en l'absence de mesures coercitives, la déclaration reste simplement déclarative. Réponse d'Henriette Rasmussen à cette question.
I think that indigenous peoples were very happy when the declaration was finally adopted. It was the North American Indian who started the work in the United Nations, and they really suffered, as you all know. And this is a very big gaining ground of the American Indian to be recognized. As you know, a declaration is not a legally binding document in international law, just like the conventions are. And you could also take the declaration, the Universal Declaration on Human Rights. It is not legally binding. Maybe it is, you know, but still, I guess that we all look upon the Declaration for Human Rights for guidance, for help, when we are experiencing bad things. That's what we do all over the world, that we have human rights. And we look upon it and regard it to be something sensible, at least, when there are big atrocities happening anywhere in the world. I think in the coming years, also the Declaration on Indigenous Peoples, it's not an empty thing. It's going to be filled out, and it constitutes a hope for many, many millions of peoples around the world.
Et peut-être juste, j'ai vu beaucoup de mains se lever, mais pour pousser la question encore qui a été posée ici, Henriette Rasmussen, vous avez évoqué ce référendum le mois dernier au Groenland, vous avez dit un pas nouveau en avant pour l'autonomie. Est-ce que vous pensez que ça, justement, que c'est la dynamique aussi de cette déclaration, et dans quelle mesure le Groenland va gagner un peu plus grâce à ce pas en avant?
My people are very happy because they have felt that the development in Greenland have not been right in our hands. It has not been our views or our visions which have built up Greenland in the post-colonial period. And we have adopted laws directly from very rich countries like the Scandinavian countries are, who have a long tradition of having laws, for example, of social security, which have been imposed on us. And it has been like, it did not do any good to us. Because we are striving people. It's a hard life. Life is hard. It is hard life everywhere. And for us, it is very, very bad that we have been unlooking on this development. And this referendum here, recognizing that Greenlanders are a people and is an indigenous people with its own language, history, and land, it is a very big step forward for us. And it is a very big, commitment of Denmark to give us that. They had to do it. We make them do it. We are so proud. And I think that, it's going to, of course, it is hard. Also with the declaration I wanted to say before, it depends on if people do something in their own states to better the situation for all the peoples. It depends, you know, the states, the politicians, the governments, and the peoples, the indigenous peoples, using the declaration to forward their situation.
C'était important de vous entendre sur ce point. Je ne sais plus quel micro, mademoiselle.
Bonsoir, ma question est pour Madame Rasmussen. Dans le cadre du développement de l'exploitation des ressources minières dans les 10 ans à venir dans le Groenland et dans l'idée de l'autonomie des Inuits qui sont majoritaires au Groenland et donc qui vont forcément peser sur ce développement. Comment concilier le renforcement des liens spirituels avec la terre et l'impact de l'exploitation des ressources minières sur l'écosystème et sur l'environnement?
Of course, we are also under pressure from the international companies, and they're very hard to beat. And because we have resources in our country, that is a very big challenge for our politicians. How long time can they say? You know, it depends very much on the education of the public. I am personally associated with the political environment in Greenland who's saying, let's not attend the building up of the CO2 emission in the atmosphere. So let's not touch the oil if there is anything. Or mineral extraction. We are building hydropower stations instead of using oil. We are using solar energy. We want to use renewable energy. But, you know, it all depends. I'm sure that, I mean, I cannot promise you that it will not happen in our country also, because you know how money and dumb politicians, weak politicians can do. I mean, we are also, you know, like that. It depends on you and me, right? How much we can...
Alors, j'avais vu une autre main, peut-être une dernière question dans l'assistance. J'avais vu beaucoup de mains se lever tout à l'heure, mais s'il n'y en a plus ici, remarquez. Ah, allez, une question encore, puisque nous arrivons à 20h.
Bonsoir. Ma question serait plutôt pour Madame Conaré, mais parce que je connais mieux l'Afrique, bien que je ne connaisse pas l'Afrique de l'Ouest, plus l'Afrique centrale, le Cameroun. Pour moi, on parle de revenir donc aux enseignements des peuples autochtones et aux enseignements ancestraux, mais de mon expérience, les enseignements ancestraux, en fait, ont une vraie tendance à rester cachés, à rester dans le secret, à ne pas se divulguer, etc. Je connais des gens, des Africains modernes qui essayent de se réimprégner de ces enseignements-là et qui ont du mal, qui rentrent dans des sociétés qui sont relativement secrètes, etc. Alors comment concilier ça? Comment concilier le fait que de ce secret et le fait qu'il faut l'enseigner aux autres et en l'enseigner aux jeunes qui, comme vous le disiez tout à l'heure, justement se détournent et s'éloignent de ces enseignements.
Question compliquée. C'est vrai qu'il y a des savoirs qui sont encore des savoirs secrets et qui s'apprennent au sein de structures établies. Si nous prenons une société comme la société Bamana, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de rites d'initiation. Malheureusement, ce sont ces cadres d'initiation qui ont sauté. Par exemple, la société d'initiation du Comon, qui est réservée, dont le grand patron est le forgeron, justement, est une étape de formation Et tout adolescent, tout homme qui passe par exemple par le rituel du Komo sait qu'il va engranger des connaissances touchant au domaine de la chasse et au domaine même de l'agriculture, aux techniques guerrières, etc. Maintenant, comment reconstituer ces différentes sociétés d'initiation qui sont des étapes à chaque âge, son initiation? Il y a 4 grandes sociétés secrètes en pays Bamana, mais c'est vrai que ça a sauté. Mais parallèlement à ça, quand même, il y avait des rites, des rituels profanes, pour ainsi dire, qui rentrent tout simplement dans le cadre de la restitution pédagogique, si j'ose m'exprimer comme ça, de ce savoir sacré-là. Par exemple, si je prends mon enfance de petite fille, je ne suis pas narcissique, hein, ne croyez pas, je ne suis pas là pour raconter ma vie non plus, même s'il paraît que les historiens vieillissants adorent raconter leur vie. Mais je parle d'exemples tout simplement terre à terre pour montrer ce qui est palpable encore. Moi, quand j'étais gosse, à chaque fête de fin de la fête du Ramadan, qui est la coupure du jeûne, et les jeunes filles organisaient une grande cérémonie de lessive au bord du fleuve Niger. On préparait à manger du couscous avec de la viande. Et chaque fois, on mettait une petite portion dans une cuillère, dans un morceau de calebasse qu'on laissait flotter sur l'eau et qui était destiné donc à la déesse du fleuve Faro, et qui est l'ordonnateur, qui est le maître du lit, qui a été initié par notre créateur pour donner des connaissances aux hommes. Donc c'était une façon assez simple, assez festive en même temps, de reconnaître donc à ce génie de l'eau toute sa force, et c'est en même temps sympa et c'est pédagogique. La jeune fille également qui apprend qui fait des fils de coton avec sa quenouille. Elle va toujours jeter sa fusaïole dans le fleuve Niger, donc pour exprimer sa suggestion au génie de l'eau. Et surtout aussi, on pensait que c'était fait pour garder le tour de main. Si on a envie de faire, de bons fils de falais ou de guessier, il fallait aller prouver sa suggestion au génie de l'eau. Donc, certes, il y a ce savoir secret, mais parallèlement aussi, il y avait beaucoup de rites profanes comme ça, que moi, je m'amuse souvent à raconter à mes enfants et même à mes petits-enfants. Peut-être qu'il faut une véritable politique gouvernementale de reconsidération de toutes ces techniques pédagogiques ancestrales pour pouvoir en tout cas rester dans le sens, au moins dans le sens. Sinon, les sociétés dans lesquelles on apprenait ce savoir secret, c'est vrai que ces sociétés-là, malheureusement, ont disparu de nos jours.
Voilà, c'était un peu de transmission ici dans le cadre de cette université populaire. C'est aussi cela qui se passe dans ces rendez-vous. Il nous reste à remercier infiniment Adamba Konaré et Henriette Rasmussen d'avoir justement transmis des messages forts, importants et beaux ici dans cette séance de controverse. En rappelant que demain à 18h30, c'est le grand rendez-vous de clôture avec Stéphane Hessel et Souleymane Bachir-Diane. Merci infiniment à nos deux invités ce soir et merci à vous de nous avoir écoutés.